Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 7 mai 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Le mythe de l'infiltration iranienne en Afrique du Nord démystifié. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le président iranien Ebrahim Raïsi condamne la présence militaire des États-Unis en Syrie, qui est vouée à l'échec. Iran-Ouzbékistan, accélérer la mise en œuvre des accords, augmentera le niveau des relations bilatérales, réaffirme le président du gouvernement iranien. Et puis l'Iran travaille pour améliorer les relations économiques avec ses voisins. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien a condamné la présence militaire des États-Unis en Syrie, une intervention illégale vouée à l'échec, a-t-il prévenu. Ebrahim Raïsi a fait ses déclarations à l'occasion d'une interview accordée à l'agence de presse officielle syrienne Sana. Il a déclaré que la Syrie avait su déjouer un plan américain visant à occuper des parties de la Syrie et piller ses richesses naturelles. Raïsi a noté qu'aucune force militaire étrangère ne devrait être présente sur le sol syrien, ajoutant que la principale préoccupation des pays de la région était désormais la restauration de la souveraineté de la Syrie. Le président iranien est rentré vendredi à Téhéran après une visite officielle de 2 jours à Damas. Le président Raïsi, s'attardant sur les affinités culturelles et civilisationnelles que partagent l'Iran et l'Ouzbékistan, qui favorisent à ses yeux un terrain approprié pour promouvoir la coopération économique bilatérale, l'a déclaré. Bien que la croissance des relations politiques et économiques entre les deux pays au cours de l'année écoulée ait rendu la situation différente par rapport au passé, mais les potentiels existants nécessitent toujours plus d'efforts pour la promotion plus concrète des relations. S'exprimant lors d'une rencontre avec Nourdin Jan Ismailov, président de la Chambre législative de l'Ouzbékistan hier samedi, le président Raïsi a déclaré « 18 accords de coopération et mémorandums d'accord ont été signés entre la République islamique d'Iran et l'Ouzbékistan et l'accélération de leur mise en œuvre augmentera considérablement le niveau des relations bilatérales ». Pour le président de la République islamique d'Iran, l'échange d'expériences entre les parlements iraniens et ouzbek sera une étape efficace et positive vers le développement des relations entre les deux pays. Pour sa part, le très haut parlementaire ouzbek a salué la politique étrangère du président Raïsi, axée sur le développement des relations avec les voisins, et a déclaré « En Ouzbékistan aussi, conformément à cette politique de principe, lors de l'amendement de la Constitution, le développement des relations avec les voisins est prioritaire, déclarant que les parlements des deux pays doivent jouer un rôle efficace dans le développement de la coopération entre les gouvernements. Le président de la Chambre législative ouzbèque a renchéri : j'assure que le Parlement de l'Ouzbékistan utilisera toutes ses facilités et capacités afin de mettre en œuvre les accords signés entre les deux pays. Lors de la cérémonie d'inauguration de l'exposition Iran Expo 2023, tenue ce dimanche 7 mai à Téhéran, le président iranien Ibrahim Raisi a déclaré que son gouvernement était déterminé à améliorer le niveau de ses interactions commerciales et économiques avec ses voisins et alliés. Le président iranien a confirmé que la politique étrangère de son gouvernement était axée sur le renforcement des liens avec les voisins et alliés et le développement de la diplomatie économique. Raisi a ajouté que l'Iran est surtout connu dans l'industrie pétrolière et gazière et que l'accent mis sur ces deux secteurs a éclipsé les autres capacités du pays. À cet égard, la première étape consiste à présenter les capacités d'exportation de la République islamique et à connaître celles d'autres pays, a-t-il déclaré, et de poursuivre. Mon gouvernement envisage donc d'améliorer le niveau de ses interactions commerciales et économiques avec la plupart des pays avec lesquels il entretient des relations. Toujours lors de la cérémonie d'inauguration de l'exposition Iran Expo 2023, Ibrahim Raisi a évoqué les pourparlers sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales et la fin des sanctions anti-iraniennes, soulignant que le gouvernement ne lie pas les progrès du pays et le règlement des problèmes à l'accord nucléaire. Ce sont les États-Unis qui ont quitté la table des négociations et ce sont les parties européennes qui n'ont pas rempli leurs engagements et ont renié leurs obligations en vertu de l'accord, a-t-il réitéré, rappelant aux parties européennes, au plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien, à savoir la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, que l'Iran avait des exigences logiques et légitimes. Enfin, les exportations pétrolières iraniennes ont doublé sous le gouvernement du président Raisi. Le PDG de la Société nationale iranienne de pétrole a annoncé qu'avec des mesures efficaces, les exportations de pétrole ont doublé sous le gouvernement Raisi. Le PDG de la Société nationale iranienne de pétrole, Mohsen Khojastemer, lors de sa visite samedi sur l'île de Khork, dans le Golfe Persique, a déclaré « Le crédit des plans et projets des terminaux pétroliers iraniens a augmenté, dont 80% des crédits sont basés sur les approbations de la Société nationale iranienne de pétrole sous le gouvernement Raisi. Les exportations de pétrole brut et de condensat de gaz ont doublé sous le gouvernement Raisi. » Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Le mythe de l'infiltration iranienne en Afrique du Nord démystifié. Au lendemain des accusations sans fondement portées par le Maroc contre l'Algérie, affirmant que le gouvernement algérien facilite l'infiltration iranienne au Maghreb, il est essentiel de comprendre comment le terme « république islamique » est utilisé dans certains contextes pour faire taire et criminaliser des choix politiques spécifiques. Venons-en directement au discours qui criminalise l'Iran et tous les acteurs politiques qui lui sont associés, que cette association soit réelle ou imaginaire. Ce discours repose sur des fondements épistémiques qui incluent la catégorie de république islamique aux côtés d'autres catégories telles que radicales, islamistes, extrémistes ou terroristes au sein d'une chaîne d'équivalence. Au sein de ce discours, le terme république islamique est déployé avec l'intention de criminaliser des mouvements, des idées ou des pays qui posent un défi au projet hégémonique occidental. On peut aussi dire que cet usage discursif sert à diviser la région, en l'occurrence l'Afrique du Nord, en amis et en ennemis, une division politique qui considère certaines pratiques, attitudes et discours comme acceptables et naturels, tandis que d'autres pratiques sont méprisées comme déviantes ou en dehors de la norme. D'un point de vue historique, certaines données sont pertinentes pour comprendre la relation politique actuelle entre le Maroc et l'Algérie, ainsi que pour comprendre les articulations discursives qui continuent d'affecter cette relation. L'Algérie et le Maroc étaient des colonies françaises avant d'accélérer à l'indépendance au milieu du XXe siècle. Immédiatement après l'indépendance de l'Algérie, en 1962, les deux pays ont eu un différend territorial. En 1963, la soi-disant « guerre des sables » a éclaté en raison d'un conflit territorial près du Sahara occidental, qui, à l'époque, était encore sous le contrôle colonial de l'Espagne. Bien que le Maroc ait cessé de revendiquer des territoires algériens en 1972, l'Algérie a décidé de soutenir l'indépendance du Sahara occidental pour freiner l'expansion marocaine. C'est précisément la question du Sahara occidental qui a dominé les relations entre les deux pays au cours des XXe et XXIe siècles. L'Espagne a conservé le territoire jusqu'en 1976, date à laquelle la dictature de Francisco Franco a pris fin. À cette époque, l'Espagne a signé les accords de Madrid avec le Maroc et la Mauritanie, ce qui signifiait la division du territoire sahraoui entre les deux pays signataires. En raison de cet accord, les indigènes sahraouis se sont retrouvés sans état ni capacité à se gouverner eux-mêmes. Les accords de Madrid ont été largement rejetés par l'Algérie, qui les considérait comme une continuation du colonialisme et une menace pour leur influence en Afrique du Nord. Peu de temps après, l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc et a commencé à fournir des armes et un refuge à l'organisation sahraoui indépendantiste, le Front Polisario. En 1976, l'Algérie a reconnu la République arabe sahraoui démocratique. Déclarée la même année par le Front Polisario comme l'autorité légitime sur le Sahara occidental. La guerre qui a suivi entre le Front Polisario et le Maroc a duré jusqu'en 1991 et a été réactivée en 2020, après 30 ans de tensions latentes. L'année 2020 a également vu le Maroc normaliser ses relations avec l'entité sioniste. En échange de cette normalisation, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'entrée de l'entité sioniste en Afrique du Nord n'est pas une mince affaire. L'Algérie est actuellement l'un des pays les plus anti-sionistes du Maghreb. Les autorités algériennes estiment que les relations politiques et militaires entre le Maroc et l'entité sioniste mettent la stabilité régionale en danger. C'est dans ce contexte que l'on peut trouver l'approche de la République islamique comme une menace à la configuration régionale conçue par le Maroc, les États-Unis et les sionistes. Actuellement, les relations diplomatiques entre la République islamique et le Maroc sont en rupture après que Rabat a rompu toutes les relations diplomatiques avec Téhéran en raison de ce qu'il a appelé le soutien de Téhéran au Front Polisario. Déjà à ce stade initial, on y trouve un discours anti-iranien, bien formé et articulé. Rabat a non seulement critiqué le soutien présumé, mais non prouvé de l'Iran au Front Polisario, mais a également accusé le mouvement de résistance Hezbollah, décrit par les autorités marocaines comme un mandataire iranien, d'entraîner et d'armer des membres du groupe indépendantiste Sahraoui par l'intermédiaire de l'État algérien. Le Hezbollah a nié une telle chose dans un communiqué et accusé le Maroc, pour sa part, d'être sous la pression sioniste et américaine. Mais le discours était déjà en circulation. Ce que ce discours cherche, du côté marocain, c'est à délégitimer toute éventuelle critique algérienne de la politique marocaine et ou de la déstabilisation régionale prouvée par l'entité sioniste. Et pour y parvenir, le Maroc fait circuler le signifiant République islamique comme symbole politique de la menace ultime. Du fait de l'usage de ce discours, tout type de coopération, même imaginaire, avec l'Iran est contaminé. Dans ce cas, l'Algérie est considérée comme étant contaminée par des prétendus contacts avec l'Iran. Le discours de la menace iranienne n'est pas nouveau et n'a pas été articulé pour la première fois par les autorités marocaines. Il est apparu sous sa forme actuelle en 1979, l'année de la révolution islamique. Ce que fait le Maroc, c'est réarticuler et adopter ce discours aux conditions politiques locales. En faisant circuler ce discours anti-iranien, le pays entre de plein fouet dans le clivage entre mauvais musulmans et bons musulmans. Le bon musulman renonce à être une option politique alternative basée sur l'islam comme grammaire. Le bon musulman est celui qui suit des pratiques et des croyances considérées comme correctes, tandis que le mauvais musulman est celui qui viole ces normes et devient un ennemi. La raison pour laquelle la République islamique d'Iran est présentée comme la plus grande menace politique possible dans ce discours réside dans sa capacité à remettre en question politiquement une vision du monde qui, bien que n'étant plus hégémonique, continue d'essayer par tous les moyens possibles d'inverser ce processus de décentrement. C'est la capacité de la République islamique à remettre en cause le discours, le non-respect des normes politiques de l'Occident qui fait du signifiant Iran une menace.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission et sur cette nouvelle édition de débat de Presse TV français. Nous sommes le samedi 6 mai 2023 en direct depuis la capitale iranienne Téhéran, également depuis le studio de Presse TV français. Les tensions montent entre l'Ukraine et la Russie. Le 4 mai dernier, donc il y a deux jours, les installations de stockage de pétrole d'une des régions de Russes en Russie ont été attaquées par des drones. Un jour avant, deux drones se sont exposés sur Kremlin. Kiev, c'est-à-dire le gouvernement ukrainien, nie toute implication dans ces attaques. De son côté, la Russie se donne le droit de toute riposte, quand et où elle veut le faire. Nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités, deux experts des questions internationales et qui suivent de très près les évolutions de la région, notamment en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
L'incendie s'est déclaré dans une installation de stockage de pétrole dans la région de Krasnodar en Russie. Un deuxième de ce type dans cette région a rapporté de l'agence de presse TASS, citant une source des services d'urgence locaux. Une deuxième nuit agitée pour nos services d'urgence, a déclaré jeudi matin le gouverneur Veniamin Kond-Raitef, confirmant que des dizaines de pompiers travaillent pour contenir l'incendie à la raffinerie de pétrole d'Ileskaï. Aucun blessé n'a été signalé et les résidents locaux ne sont pas en danger, a ajouté Kondratiev, Le feu a été entièrement maîtrisé et éteint à 5h30. Bien que le gouverneur n'ait pas révélé la cause présumée de l'incident, une source a déclaré à TASS qu'un réservoir de stockage de carburant avait pris feu tôt jeudi matin, prétendument en raison de l'attaque d'un drone inconnu. Des témoins ont signalé au moins une explosion dans la zone peu avant le début de l'incendie, vers 2h40 heure locale, a écrit RT. L'incident survient un jour après qu'une autre installation pétrolière dans la région de Krasnodar a pris feu, également en raison d'une frappe présumée de drone. Les autorités n'ont toutefois pas encore officiellement confirmé la cause de l'incident dans le village de Volna, à 10 km au nord de la ville portuaire d'Otaman et à proximité de l'extrémité est du pont de Crimée. Fin avril, l'Ukraine a affirmé être à l'origine de l'attaque d'un terminal pétrolier dans le port de Crimée de Sébastopol qui a détruit 4 réservoirs de pétrole selon l'autorité locale. Kiev a déclaré que le raid visait à jeter les bases de sa contre-offensive printanière prévue de longue date. Tôt mercredi matin 3 mai, 2 drones ont explosé au-dessus du Kremlin et du Sénat russe. Les autorités ont déclaré qu'ils avaient été abattus par les défenses aériennes. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts signalés lors de l'attaque que la Russie a imputée à l'Ukraine. Le Kremlin déclarait qu'il se réservait le droit d'exercer des représailles de la manière, au lieu et au moment de son choix. Moscou a déclaré mercredi que 2 drones avaient été utilisés dans l'attaque contre la résidence de Vladimir Poutine durant la nuit, ajoutant que les drones avaient été mis hors service par des défenses électroniques. La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin avec 2 drones qui ont été mis hors service par des systèmes de guerre électronique, a affirmé la présidence russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné dans un communiqué que la Russie se réserverait le droit de prendre des mesures de rétorsion là et quand elle le jugera nécessaire.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Presse TV. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit d'Arnaud Develet, juriste international, également Fabrice Béor, expert pour l'ONG EOD, qui est avec nous depuis Moscou. Je vous dis bonjour, messieurs, et merci de nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Alors, monsieur Béor, vous qui êtes sur place, vous suivez de très près les évolutions en ce qui concerne ces provocations d'abord. En quoi consistent ces attaques, ces provocations, mais aussi ces réactions de Kiev qui nie en fait toute implication dans ces attaques, dans ces provocations?
On peut le voir sur plusieurs actes. Tout d'abord, il y a les attaques de drones en eux-mêmes depuis le territoire ukrainien sur le territoire russe, sans compter les nouveaux territoires, c'est-à-dire Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Luhansk. Et vous avez aussi des attentats terroristes faits par des agents ukrainiens en Russie même. Le drone, par exemple, sur le Kremlin, vu l'orientation d'où il vient, c'est un drone qui est parti depuis Moscou sur le Kremlin, et ce qui veut dire que c'est une équipe qui est sur Moscou. Donc l'Ukraine, effectivement, nie toute activité. Ça rappelle un peu d'ailleurs l'État d'Israël sur ses activités terroristes et de destruction, où il ne confirme rien, n'affirme ni ne confirme les actions qu'il mène, puisqu'il démontrerait qu'ils sont dans des actions qui visent non pas des objectifs militaires, mais des assassinats politiques, puisque le président, c'est un assassinat politique. Il y a encore eu une tentative d'assassinat d'un responsable russe aujourd'hui, d'ailleurs, une voiture piégée. Et vous avez donc une situation où cela démontrerait simplement comme toujours d'ailleurs, le banderisme est assez fort, est assez faible militairement, mais est assez fort en général dans le terrorisme, c'est même une partie de sa génétique idéologique, d'un point de vue historique. Donc nous sommes dans une situation où Kiev fait des actes... Alors, les attaques de drones sur certains, comme dans le Kouban, le Kraï de Krasnodar, oui, mais c'est très symbolique en réalité. Ça ne change rien d'un point de vue militaire, surtout que ce ne sont pas des objectifs militaires et que ça ne sert pas pour des utilisations militaires, ce qu'ils ont visé. Donc c'est bien sur des installations industrielles civiles, mais quand vous voyez ce qu'ils font dans le Donbass, on comprend que la destruction, c'est leur principale préoccupation. Ils ont besoin de victoires un peu symboliques, mais je pense qu'ils sont allés un peu trop loin avec ce qu'ils ont fait sur le Kremlin, et ils ont peur des répercussions. Donc ils sont dans la négation, mais ils sont à bonne école, comme je vous ai indiqué, puisque on sait très bien, même Tel Aviv essaye de garder une forme de neutralité d'un point de vue diplomatique, que sur le terrain, on sait très bien quand même qu'il y a une certaine proximité avec la junte de Kiev, la mafia de Kiev, et en cela, ils sont, comme je l'ai indiqué, je le répète, à bonne école. C'est triste parce que ça fait beaucoup de gesticulations médiatiques, ça fait plaisir dans les médias de l'OTAN où ils se gargarisent de toutes ces situations, mais ça ne changera pas toujours de toute façon l'issue de la guerre. Ça ne peut faire que la rendre plus violente, donc plus de morts pour un résultat identique. En cela, c'est doublement criminel, non seulement ces attaques, mais également leur glorification par toute la petite mafia russophobe qu'on peut voir sur les médias de l'OTAN et en particulier en France.
Merci pour vos explications, Fabrice Péan. Restez en ligne. Arnaud Develet, juriste international, vous êtes également avec nous par Skype. Maître, vous, de votre point de vue et d'après ce que vient de dire Fabrice Péan, comment analysez-vous dans un premier temps les évolutions sur le terrain, mais aussi ces provocations et leurs objectifs notamment?
Bah écoutez, je m'inscris dans le prolongement de M. Bohr, dans le sens où, effectivement, on est en présence d'un État qui pratique le terrorisme, j'allais dire, comme un fait accompli. Hein, et en cela, effectivement, ils ont des proximités avec l'entité sioniste et probablement aussi avec les services britanniques et les services américains. Et en cela, on assiste à une stratégie de terreur, d'essayer d'atteindre la population, retourner la population contre ses dirigeants. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir, notamment en Syrie. Moi, ce que je retiens particulièrement, c'est les déclarations de John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, qui, lorsqu'il a été confronté aux attaques donc, sur le Kremlin, a fait une déclaration assez curieuse où il a dit qu'il a laissé entendre que Washington avait donné enjoint Kiev de ne pas procéder à des attaques à l'intérieur du territoire russe. Alors de deux choses l'une, soit effectivement les États-Unis sont bien impliqués malgré leur dénégation quant au fait que c'est quelque chose, c'est un conflit exclusivement entre Kiev et Moscou. C'est une admission tacite, et auquel cas ils ne contrôlent plus, dans ces cas-là, leur proxy, donc la junte de Kiev, ou alors ils prétendent pouvoir avoir un contrôle sur, comment dirais-je, sur les opérations, dans le sens où ils se disent en soutien au niveau du principe de la défense de l'intégrité territoriale de Kiev, mais dans les faits, ils assistent bien plus qu'on peut bien le croire à l'alimentation du conflit, que cette position a été reprise aussi par le ministre entre guillemets des Affaires étrangères de la Commission européenne, Borrell, qui a souligné que malgré les 2 milliards de dollars alloués au développement des infrastructures en Europe, cet argent devait être, il n'avait pas le choix, il devait être envoyé à Kiev, ce qui laisse entendre que l'Occident collectif dans son ensemble n'a absolument aucune intention de faire baisser les tensions et peut-être de se diriger vers une plateforme de négociation, mais au contraire, qui vise surtout à enflammer le conflit, à prolonger le conflit.
Merci pour vos explications. Fabrice Bord, Maître Develet vient de prononcer deux hypothèses, soi-disant deux avis. Alors la première serait que les États-Unis ne contrôlent plus la junte en Ukraine, le gouvernement ukrainien, donc il ne contrôle plus la situation. Kiev décide lui-même de ses actes. Le deuxième, ce serait que les États-Unis cherchent à faire prolonger la guerre et ne cherchent pas du tout à faire cesser ces tensions comme ils le prétendent alors à travers diverses tribunes. Et quel est votre avis à ce sujet ?
Je dirais les deux. Les deux. Il ne faut jamais sous-estimer la complexité et surtout la bêtise des dirigeants de la junte de Kiev. Les deux, parce que, évidemment, c'est une guerre américaine préparée depuis très longtemps, d'ailleurs depuis 1991, où on a fait revenir d'Occident, en particulier d'Allemagne et du Canada, tous les banderistes qui avaient été réfugiés, tout d'abord dans la partie ouest de l'Ukraine, où est l'origine de ce nationalisme ukrainien, qui n'a absolument rien, entre guillemets, d'ukrainien, puisqu'ils n'ont jamais fait partie d'un seul et même bloc politique, en tout cas pas partie de l'Empire russe, lorsque le territoire dit ukrainien d'aujourd'hui en était intégré, comme de l'URSS. Et donc, ça, ils ont infusé leur discours historique, leur narratif. Et lorsque vous avez eu, même déjà, la première révolution orange, il y avait déjà les prémices de se mise en avant avec le parti Svoboda. Et quand nous avons eu le coup d'État du Maïdan en 2014, tous ces gens-là ont été mis en avant. Aujourd'hui, évidemment, on ne les met pas en avant dans le Parlement, mais il n'y a même pas besoin de les mettre en avant dans le Parlement, puisqu'ils sont dans toutes les administrations. Et l'idéologie en elle-même a quitté ces organisations pour infuser tous les éléments de la société politique et économique et de sociétal, allons-nous dire, de la junte de Kiev. Donc aujourd'hui, la junte de Kiev représente cet élément banderiste. Et donc nous avons une situation où aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui ont... Les États-Unis qui ont travaillé ça depuis 2014. Ils ont soutenu, ils ont fermé les yeux ou favorisé, puisque les États-Unis sont, peu importe, ils utilisent le wokisme dans certains États pour détruire la société, et ils utilisent ces extrémismes idéologiques dans d'autres parties du monde, du moment qu'ils servent leurs intérêts. Et dans le cas précis, peut-être qu'effectivement, comme toujours, quand ils ont utilisé Daesh en Irak, ça leur a un peu échappé des mains, et quand ils ont aujourd'hui utilisé le banderisme, ça doit peut-être aussi leur échapper des mains, surtout lorsqu'ils arrivent à la corde de leurs possibilités. On voit bien, comme a indiqué M. Develet, que vous avez aujourd'hui plus extrémistes, plus américains que les Américains, c'est l'Union européenne. Les Américains, eux, ont leur objectif, c'était de détruire l'Europe et détruire l'Allemagne principalement, et si en même temps on pouvait diviser l'Europe d'une manière presque définitive, ou tout du moins sur une longue période, bah c'était tant mieux, ils ont atteint leurs objectifs, mais l'Union européenne a toujours été, là dans le cas précis, plus extrémiste, même que les Américains. Je rappellerai que couper SWIFT, ce n'est pas un projet américain, c'est un projet de l'Union européenne. Les Américains étaient contre au tout début, faut-il l'indiquer. Donc on est dans une situation où vous avez aujourd'hui une junte banderiste qui est à la corde d'un point de vue armement, et d'un point de vue même si on leur donnait beaucoup d'armement, ils n'ont plus le substrat matériel humain, allons-nous dire, pour mener une offensive qui leur permettrait de gagner cette guerre. Et donc vous avez une situation où quand on est acculé, et ben on revient aux vieilles méthodes, donc les méthodes terroristes de nos amis de Kiev, et qui effectivement peuvent ne pas écouter toutes les recommandations américaines, puisque lorsque vous voyez le danger arriver en face, la raison commence à défaillir et vous revenez à des réactions qui ne sont pas rationnelles, où vous venez à des volontés de destruction au lieu de raison pour négocier. Ils ne sont pas là en train de négocier, ces gens-là se battent jusqu'à la mort, et malheureusement, il va falloir qu'elles viennent vers eux pour que la solution soit prise. Je pense que les Américains, aujourd'hui, sont aussi pris dans un piège où ça va peut-être trop loin pour eux, mais dans tous les cas, si ça va trop loin pour eux ou si ça va... Si c'est soutenu par eux, dans tous les cas, on voit très bien avec les dénégations ou les affirmations ou les déclarations que ce sont bien les États-Unis qui, depuis le début, mènent la barque et donnent, on va dire, les ordres, les consignes et les lignes rouges que peuvent franchir ou pas la jambe de Kiev. Donc on voit bien qui commande. De toute façon, c'est Washington, c'est pas l'Union européenne. C'est Washington qui commande. Mais voilà, comme toujours, les Américains, avec leur plan magnifique, leur création généralement diabolique leur échappe des mains. Et après, ils ne savent plus comment s'en défaire. En cela, peut-être, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer les gens, mais peut-être qu'on en arrive à une situation attendue où même la création même de la junte de Kiev va commencer un peu à brûler les doigts de Washington. Et c'est la meilleure situation qu'il faut, puisque cette guerre se terminera lorsque Washington et Moscou se mettront d'accord pour que cela se fasse.
Merci pour vos explications, Maître Develet. Vous venez d'entendre les explications de Fabrice Péor. Vous, à votre avis, est-ce que, vous êtes d'accord avec l'analyse de Fabrice Péor? Est-ce que on arrive à un point où les États-Unis, ne contrôlent plus ce qui se passe sur le terrain et qu'il y aura des conséquences néfastes pour les États-Unis et leurs alliés européens?
Moi, je pense que l'objectif des États-Unis, c'est avant tout, effectivement, de continuer l'opération de blanchiment d'argent, parce que tout le monde se fait beaucoup trop d'argent dans les milieux autorisés aux États-Unis, mais aussi en Europe, et que cela fait partie, de toute façon, de cette stratégie d'usure qui avait été mise en avant à l'époque par le rapport de la RAND en 2019. Donc, la Syrie fait partie de cette stratégie d'ensemble. Le conflit dans le Haut-Karabakh aussi, le conflit en Ukraine, bien sûr. Et tout ça participe à, effectivement, de ces objectifs qui sont de mener une guerre d'usure et de drainer les ressources de la Russie avec l'idée, éventuellement, à force d'opérations terroristes avec un but psychologique, de retourner à un moment donné la population russe contre ses dirigeants. On sait que, en général, ce genre de méthode ne fonctionne pas, mais les États-Unis, on l'a vu depuis maintenant au moins une vingtaine d'années, de manière soutenue, sont patients et il n'y a pas de montant limite aux ressources qui sont dépensées pour obtenir gain de cause. On le voit en Syrie, malgré les réconciliations régionales entre des acteurs qui, il y a encore quelques temps, étaient à des points opposés de l'échiquier. Les seuls qui restent pour l'instant, qui s'accrochent comme une moule sur un rocher, ce sont les États-Unis. Et dans ce contexte-là, il n'y a aucune raison d'imaginer que la stratégie va changer. De toute façon, les néoconservateurs ne reviennent jamais en arrière. Il y a bien un proverbe qui dit qu'ils ne connaissent pas le concept de l'introspection et que dans cet état de fait, ils vont continuer effectivement à faire rouler à feu douce. Mais il y a toujours une chance, un risque, que les choses dérapent. Et on peut penser que ce qui s'est passé il y a deux jours au-dessus du Kremlin franchit une ligne rouge qui est quand même assez préoccupante. Là, on est quand même en présence d'une tentative d'assassinat politique d'un dirigeant. Alors les États-Unis, bien sûr, vont dire qu'ils ne pratiquent jamais ce genre d'opération, mais on sait très bien, et ce depuis au moins 50 ans, qu'ils n'hésitent pas justement à cibler des chefs d'État qui leur déplaisent, et que là, ça pourrait constituer un casus belli, enfin une ligne rouge en tout cas, qui pourrait voir le conflit subir une escalade assez dramatique et donc déraper hors de contrôle. J'ajouterais à cela que sur un plan militaire, on sait très bien que la situation est très mal engagée pour la junte de Kiev, que cette contre-offensive dont on nous rabâche les oreilles depuis plusieurs semaines n'est pas en mesure actuellement d'être mise en œuvre pour des raisons liées au matériel qui n'est toujours pas délivré à un substrat humain, comme le disait Fabrice Péor, qui déjà lui-même n'est plus du tout le standard qui existait lors du déclenchement d'opérations militaires spéciales russes. Et j'ajouterais à ça qu'au niveau des conditions météorologiques, les armements et les équipements occidentaux sont lourds et qu'avec le dégel, pour l'instant, c'est extrêmement boueux et il n'est pas du tout concevable pour pouvoir mener à bien possible, qui permettrait ensuite d'alimenter le narratif médiatique qui est surtout la pierre angulaire de l'Occident collectif et de ses proxys à Kiev. C'est vraiment sur ça que ce conflit a été alimenté. Ce sont des espèces de victoires militaires imaginaires, des interprétations de retrait tactique russe comme des victoires militaires ukrainiennes, alors qu'il n'en est rien. Et Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'encore une fois, on assiste à cette recrudescence d'attaques terroristes, parce qu'il faut meubler, il faut alimenter le récit narratif, il faut pouvoir continuer à justifier les envois d'armes et d'argent. Et qu'avec la campagne présidentielle américaine qui va commencer fin août, on peut penser que ce sera bien sûr le sujet de fond principal qui verra les candidats s'affronter. Alors après, est-ce qu'il y aura un rejet unilatéral de ce qui a été fait depuis 14 mois, j'en doute. Mais je pense que pour le complexe militaro-industriel américain et pour les stratégistes néoconservateurs, le fait même qu'il puisse y avoir une remise en cause de l'intensité de l'assistance prêtée à Kiev est hors de question. Donc il faut absolument alimenter la et les opérations de terroristes un peu à l'aveugle font partie de cette stratégie.
Merci infiniment pour vos explications. Alors Arnaud Develay, juriste international, et Fabrice Béor, expert pour l'ONG, étaient avec nous pour ce débat. Je tiens à vous rappeler, à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que Fabrice Béor a été sur le terrain, sur les fronts, il y a quelques temps. Il nous a envoyé des vidéos en exclusivité, des vidéos qui vont être publiées bientôt sur notre site, qui s'agit de french.presstv.ir. Voilà, merci à vous, à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Afrique Économie. Une émission durant laquelle nous allons passer en revue les évolutions économiques et financières les plus importantes qui se sont passées durant la semaine dernière sur le continent africain. Restez avec nous. En janvier 2023, la Kenya Power a bénéficié d'un sursis financier après avoir obtenu un moratoire sur le remboursement de prêts d'une valeur de 184 millions de dollars auprès de partenaires de développement internationaux. La Banque mondiale serait sur le point d'accorder un prêt sans intérêt de 300 millions de dollars à la société publique Kenya Power and Lighting Company pour l'aider à rembourser ses dettes, à reconstruire son réseau de transmission vieillissant. Le prêt devrait être débloqué dans le cadre d'un programme de 7 ans intitulé Green and Resilient Expansion of Energy, d'après le journal Business Daily. La Banque mondiale aurait déclaré que le prêt permettra à Kenya Power de poursuivre la connectivité du dernier kilomètre et l'aidera à mettre en place des compteurs intelligents et un système de communication bidirectionnel avec les gros consommateurs d'électricité afin de réduire les pertes du système. La Kenya Power, qui est cotée à la bourse de Nairobi, est en effet le plus grand distributeur d'électricité du Kenya, avec une part de marché estimée à plus de 95%. Bien que la société ait renoué avec la rentabilité dernièrement, elle a une dette énorme qu'elle n'est pas en mesure de régler sans l'aide du gouvernement qui garantit une partie des prêts. Au Burkina Faso, l'exécutif autorise l'exploitation d'une mine d'or capable de livrer 11,74 tonnes en 10 ans. En 2022, la production d'or du Burkina Faso a baissé de 14% pour s'établir à 57,67 000 tonnes, alors que le secteur orifère représente la première source de devises étrangères et une source majeure de recettes pour l'État. Le gouvernement veut inverser la tendance en relançant d'anciennes mines d'or. Au Burkina Faso, le gouvernement poursuit ses efforts en vue d'accroître la production nationale d'or. Lors du Conseil des ministres du 3 mai, l'exécutif a en effet autorisé l'octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or à la société Pouragold pour exploiter des gisements aurifères dans deux communes de la province des Balés, avec une production moyenne estimée à 11,75 000 tonnes d'or sur une durée de vie de la mine de 10 ans.
Selon les autorités, le projet devrait rapporter 51,35 000 milliards francs CFA à l'État sur la période, sans compter les 2,95 milliards francs CFA au titre de la contribution au fonds minier de développement local. Enfin, l'exploitation de la mine d'or devra favoriser la création de 232 emplois directs et 134 emplois indirects. La date d'entrée en production de l'actif n'a pas été indiquée. Pour rappel, Poura est une ancienne mine d'or restée en activité jusqu'à la fin des années 90. Sa relance intervient dans un contexte de baisse de la production d'or en raison notamment de la menace terroriste. En parallèle au renforcement de la sécurité des sites miniers, le gouvernement multiplie les accords en vue de reprendre la production sur des mines à l'arrêt, comme le témoigne la vente récente de la mine d'or Inata à la société Afro-Turque. MTN est devenu en septembre 2022 le premier opérateur télécom à déployer la 5G au Nigeria. La société veut accélérer l'adoption de la technologie mobile de dernière technologie et de dernière génération dans le pays, dans un contexte marqué par une demande croissante en connectivité à haut débit. L'opérateur de téléphonie mobile MTN Nigeria espère couvrir 10% de la population nigériane avec son réseau mobile de cinquième génération d'ici la fin de l'année. À cet effet, la société prévoit d'accélérer les investissements dans le déploiement des sites 5G. C'est ce qu'indique le rapport intégré de MTN Group pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. C'est en septembre 2022 que MTN a lancé l'ultra haut débit commercial au Nigeria. Dans une première phase, le nouveau réseau a été déployé à Lagos. Il sera étendu à 6 autres villes que sont Abuja, Port Harcourt, Ibadan, Kano, Owerri et Maiduguri, puis progressivement au reste du pays. En 2022, la société a déployé 588 sites 5G dans les principales villes du Nigeria et vise une couverture nationale d'ici 2025. La généralisation de la couverture de la 5G au Nigeria devrait faciliter l'utilisation des services comme les communications, les jeux vidéo, la vidéo à la demande, l'e-learning, l'e-gouvernement, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. Il faut toutefois rappeler que l'adoption de l'ultra haut débit en Afrique pourrait être ralentie par la cherté des smartphones compatibles avec la technologie, entre autres, selon un rapport d'Ecofin Pro intitulé 5G, ce qui peut changer en Afrique avec l'ultra haut débit. Les smartphones 5G coûtent actuellement entre 200 et 1500 dollars et ne sont donc pas à la portée de la majorité de la population africaine. Le coût élevé du service Internet 5G constitue également un obstacle. La Tanzanie possède d'importantes ressources halieutiques qui sont encore sous-exploitées. Dans le pays, l'exécutif mobilise de plus en plus d'investissements pour renforcer la contribution des opérateurs publics dans le secteur de la pêche. En Tanzanie, la Société nationale de pêche, opérant sous l'administration du ministère de l'Élevage et de la Pêche, prévoit de faire passer le volume de ses exportations de poissons à 39 000 tonnes au cours des 5 prochaines années, soit une hausse de 30% par rapport au stock actuel de 30 000 tonnes. S'exprimant lors d'une interview accordée au quotidien local Daily News, Riziki Chemod, secrétaire permanent du ministère de l'Élevage et de la Pêche, indique que ce projet sera principalement financé par une enveloppe de 2,64 milliards de shillings obtenue auprès de l'Agence japonaise de coopération internationale. Avec ces fonds, la Tafico va acquérir un nouveau navire de pêche de 22 mètres de long et d'une capacité de 90 tonnes pour la pêche en haute mer. Ils seront également utilisés pour la construction d'un entrepôt frigorifique et l'achat d'un véhicule réfrigéré au profit de la société, explique le responsable. Par ailleurs, l'exécutif dédiera 3,4 milliards de shillings au cours de l'exercice financier 2023-2024 pour soutenir les activités de la Tafico et accroître sa contribution économique dans le secteur de la pêche. Cet appui financier sera principalement déployé pour la mise en œuvre d'un projet de transformation de sardines et autres poissons pélagiques. L'objectif affiché par la société est de sécher environ 80 à 100 tonnes de poissons pélagiques par mois, en vue de réduire les pertes post-capture qui concernent chaque année jusqu'à 40% des prises de poissons. Pour rappel, la Tanzanie possède plus de 346 000 km² de zones économiques exclusives avec des ressources estimées à 2,7 millions de tonnes de poissons. Pour l'année académique 2023-2024, les étudiants ivoiriens peuvent bénéficier de bourses d'études dans les universités saoudiennes. Le Royaume vient de lancer un appel à candidature. Le Royaume d'Arabie Saoudite a mis à disposition des bourses d'études à l'intention des étudiants ivoiriens, a révélé un communiqué du ministère ivoirien des Affaires étrangères publié le mercredi 3 mai. Les bourses de tous les niveaux sont au titre de l'année académique 2023-2024. Cependant, ni le nombre de bourses et les conditions d'admissibilité ni la durée n'ont été définies par le communiqué. Les bourses sont proposées pour les universités saoudiennes. Les candidatures se font à travers le portail internet dédié aux bourses d'études dans le Royaume saoudien. La bourse d'Arabie Saoudite est offerte chaque année à des étudiants exceptionnels de différentes parties du monde. Le gouvernement saoudien souhaite diffuser la recherche scientifique et les connaissances afin de contribuer aux étudiants internationaux du monde entier. En outre, ils sont préoccupés par l'avancement de la civilisation humaine sur tous les continents. Donc, il y a de nombreuses raisons de faire les études supérieures dans ce pays. Le pays également possède une excellente connaissance de la recherche scientifique. Les universités saoudiennes offrent un environnement décent aux étudiants pour effectuer des recherches universitaires. Et les étudiants boursiers bénéficient des soins de santé de qualité. Personnels académiques sont dévoués et prêts à transmettre des connaissances aux étudiants simplement pour une assimilation facile.